culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à tous et bienvenue à notre culte espoir. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez apprécier ce moment de partage. Alors avec nous ce matin, nous avons Marilyn.
Bonjour.
Bonjour. Marina.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être là. Alors ça fait déjà 3 cultes que nous avons avec nous. Gabriel Monet.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Romina.
Nous avons parlé d'écologie. Tu as accepté d'entamer avec nous une série de cultes que tu as appelée « Que la terre soit dans l'allégresse ». Et aujourd'hui, on va boucler cette série et nous allons parler plus précisément du thème « Si Dieu renouvellera toutes choses au retour de Jésus, alors pourquoi les chrétiens doivent-ils s'intéresser à l'écologie ?» C'est une très bonne question et merci Gabriel d'avoir accepté de partager cela avec nous et merci aussi au Seigneur. Pour sa présence parmi nous. Je vous invite en tout cas à ouvrir votre cœur et à vous laisser inspirer par lui pendant ce moment que nous allons passer ensemble.
Alors pour commencer, j'aimerais partager avec toi une façon dont je vis cette présence de Dieu dans ma semaine. Depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude de vivre mes temps de lecture de la Bible comme un dialogue avec Dieu. Alors, ça se passe comment ? En fait, quand je lis un passage, il y a des fois des mots qui me font réagir ou qui font écho. Et ça t'arrive sûrement, une histoire qui bouscule, un mot qui fait écho à quelque chose qu'on a vécu dans la journée, dans la semaine, et puis ou une émotion tout à coup, c'était le mauvais mot. Et pourtant, il est là. Et des fois, c'est pas forcément évident ce qui arrive dans la tête. Et on pourrait être tenté de dire je lis, c'est le moment de lire, et donc mettre sous le tapis ce qui arrive. Et un jour, j'ai lu le psaume 62. Et dans le psaume 62, c'est marqué, entre autres, « Répandez vos cœurs en sa présence ». Et ce verset, il m'a interpellée, parce que je me suis dit « Répandre ». Répandre, c'est quoi ? Alors pour moi, répandre, c'est étaler, c'est ouvrir, c'est tout mettre à la lumière. Alors, comment est-ce que je peux mettre mon cœur à la lumière de Dieu ? Depuis ce moment-là, j'essaye de discuter avec Dieu quand je lis un passage et qui me bouscule ou qui me bouscule pas. Je lui exprime ce qui me vient en essayant d'enlever les filtres. Parce que je vais vous donner un exemple de filtre. Il y a peut-être pas que moi qui en ai. Non, tu peux pas penser ainsi. C'est pas chrétien. C'est pas juste, il faut pas ressentir ça, c'est pas les chrétiens qui font ça. Et que va dire Dieu si tu lui dis ça ? Et puis, non, je me sens pas comme ça en fait, c'est pas possible. Et au fond de moi, souvent, j'ai cette petite voix qui me dit, si, si, je crois que c'est bien ça. Alors, la Bible, elle nous dit que Dieu, il sait tout. Et donc, le problème, c'est pas de lui dire, c'est de le reconnaître, que nous-mêmes, on a ce qu'on pourrait avoir sur le cœur. Et cette démarche d'ouvrir le cœur, de prier sur ce que je lis, ça me libère, ça laisse la place à Dieu pour remplacer mes schémas et ça me permet d'être plus vrai avec moi-même et avec Dieu. Souvent, ça me réconcilie avec certains textes que j'appréhendais un peu parce qu'ils me montrent une autre façon de les voir. Et toujours, je dois me rappeler que Dieu n'est pas là pour me condamner dans ce que je ressens, ce que je vis, mais pour me libérer. Et je trouve que cette façon de lire et de prier la Bible, ça me permet de grandir dans ma confiance avec Dieu, dans ma relation avec lui. Et voilà, c'est comme ça.
T'as merci. Merci Marilyn pour ce partage concret de comment tu lis et tu pries la parole. Merci beaucoup. J'aimerais te partager, cher auditeur, un psaume qui me rassure beaucoup. C'est le psaume 24, verset 1. Et il nous dit ceci, « Le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre avec tous ses habitants. » C'est très intéressant ce texte, hein. En tout cas il me parle particulièrement, Je comprends que ça coupe un peu tout désir de vouloir faire croire qu'on possède un sol, un bout de nature, un territoire des océans, une étoile. D'ailleurs, vous savez probablement qu'on peut aujourd'hui acheter des étoiles ou une constellation. Un être vivant, est-ce que notre enfant nous appartient ? Ça me donne une perspective nouvelle. Dieu est le propriétaire et je suis gardienne. J'ai la gestion d'un bien qui ne m'appartient pas. Et j'aime cette idée, ça me rassure un bout de savoir que Dieu est le maître. Et il y a un chant du groupe EXO qui en parle. C'est le chant Un seul Dieu. Je te laisse l'écouter avec moi. Exaltons le Dieu de la terre, le propriétaire de cette terre. Je me réjouis à présent de te partager un témoignage bien attendu qui nous vient directement de la région parisienne. Je te laisse écouter.
Bonjour Aude.
Bonjour.
J'ai le plaisir de te recevoir pour parler essentiellement d'un projet que tu as créé il y a 2 ans maintenant.
Mm-hmm.
Tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, T-Notes, c'est une entreprise qu'on a lancée à trois. Il y a Anne et Mélodie qui sont les cofondatrices de T-Notes. Et T-Notes, en fait, c'est allier le thé avec la Bible. Donc, notre motto, c'est quand l'heure du thé devient un moment pour prier. L'idée, c'est d'utiliser le thé comme vecteur pour apprendre à lire la Bible ou la découvrir, la redécouvrir, ça dépend, d'une manière un peu originale.
Un peu originale, oui. Déjà, la création de, ce projet est originale. Comment est-ce que, dans les différentes étapes pour arriver à la création de ce projet de T-Note, comment est-ce que tu as senti la main de Dieu ?
Mais écoute, déjà, le projet, en fait, j'avais ce projet en tête. Et puis, avec Anne et Mélodie, on s'était donné des rendez-vous Skype pour créer, pour dessiner, puisqu'on est un peu toutes les trois un peu artistes, on va dire. Et puis, au premier Skype, je leur ai présenté ce projet. Je me dis, voilà, moi, pendant ces heures de création, créativité, moi, je vais travailler sur ce projet T-Notes. Et quand je leur ai présenté, ça les a pas mal intéressés. Et du coup, elles ont pris le temps de prier et puis on s'est dit, bon, c'est parti pour l'aventure. Donc ça, déjà, avoir une équipe compétente, une équipe très complémentaire, tout en étant sur la même longueur d'onde, parce qu'on a vraiment des visuels et une façon d'entreprendre très similaire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était trouver un fournisseur, parce qu'on avait des critères. Le critère premier, c'était respectueux de l'environnement. Et le deuxième critère, bon, équivalent à vrai dire, on pourrait les mettre sur le même piédestal, c'était un thé qui soit respectueux des gens, donc équitable. On n'a pas le label, donc je ne peux pas utiliser ce terme-là, mais en tout cas respectueux des hommes. Et au bout de quelques recherches, on a trouvé ce fournisseur basé en Inde, qui répond à tous ces critères. Il n'y a pas d'intermédiaire. On travaille directement avec le producteur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez formidable. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il nous permet de faire des petits volumes pour l'instant, parce qu'on est une petite entreprise. On a pour but de grandir, certes, c'est sûr. Mais en tout cas, les petits volumes qu'on demande sont réalisables. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'était aussi avoir suffisamment d'argent pour lancer l'aventure. Parce que même si on réunissait nos économies toutes les trois, on n'était pas au bout, on n'était pas arrivé à ce qu'il nous fallait pour investir. Donc, on a lancé une campagne de crowdfunding. Et comme 5 jours avant la fin du crowdfunding, on n'avait toujours pas la somme. Et avec la plateforme qu'on avait choisie, si on n'a pas la somme, tout retourne chez les donateurs. Donc, on dit là, écoute, Seigneur, là, c'est une toison qu'on te pose. Si tu veux vraiment que le projet aboutisse, il va falloir que tu nous montres que tu le veux. Et puis, c'est exactement ce qui s'est passé. Au jour de clôture de la campagne, on avait exactement, on avait même plus que la somme qu'on avait demandée. Et après, dans la vie de tous les jours, quand des fois on a envie de baisser les bras ou des fois on rencontre des soucis, on a des petits messages de clients qui nous disent c'est super cool, on a été vraiment encouragés, ou j'ai donné tel produit à une amie et ça l'a boosté, j'ai donné à telle amie non chrétienne ou non chrétien, et puis ça nous a permis de lancer une conversation. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui nous permettent de continuer et qui nous motivent, parce qu'on est vraiment persuadés que la Bible est pleine de sagesse et pleine de vie. Elle est la vérité et qu'elle mérite d'être connue par chacun.
Mais alors, vos clients, quand ils commandent du thé, ils savent déjà à quoi s'attendre ? Ou est-ce que certains sont surpris de voir cette alliance entre le thé et la Bible ?
Bon alors, je suis pas sûre qu'ils soient très surpris. En tout cas, ceux qui commandent, ils commandent parce qu'ils ont connu la marque et ils connaissent le principe. Et c'est ce qu'on vend. En tout cas, on cache pas du tout qu'il y a la Bible sur nos produits. Au contraire, c'est ce qu'on veut vendre, c'est ce qu'on veut montrer.
Et vous travaillez avec des cafés, des restaurants.
On commence à diversifier un peu notre marché, notre clientèle. Et effectivement, on commence à travailler avec des cafés, notamment chrétiens, qui distribuent à la tasse, qui vendent à la tasse notre thé et qui sont devenus aussi nos distributeurs. Et c'est le cas aussi de librairies chrétiennes, de librairies spécialisées un peu partout en France. En Suisse, on commence et puis après, on verra là où Dieu nous permet de semer.
Et alors, cette sensibilité écologique, c'est parce que vous êtes chrétienne ou c'est parce que ce thé, donc, il vient d'Inde, il fait quand même un long voyage.
quelques centaines de milliers de kilomètres. Ouais. Mais écoute, on essaie d'être les plus vertueux possibles. Oui, dans un deuxième temps, on va essayer de travailler. On commence déjà à travailler, en fait, avec des producteurs plus européens, voire on essaierait français, pour limiter l'impact carbone, l'empreinte carbone, voilà, notre empreinte carbone. Mais après, oui, on était toutes les trois déjà sensibles. Je pense que dans la Bible, on voit Dieu, au commencement, Dieu nous demande de prendre soin de sa création. Ah oui, elle nous est soumise de ce qui est écrit. mais on doit en prendre soin. Et donc, pour nous, ça semblait évident de lancer un business qui soit le plus responsable possible. Et puis voilà, en fait. Donc, dans notre quotidien, toutes les trois, on essaie d'adopter des comportements vertueux, pour autant que ce soit parfaitement possible. Et donc, dans notre business, bah, il n'y avait pas trop d'options, quoi.
Alors, on est en début d'année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les trois, T-Notes, cette jeune entreprise féminine, en tout cas pour l'instant?
Oui, au final, oui.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Eh bien, écoute, nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est que le plus de monde soit touché par la Bible. Jusque-là, sur nos produits, on propose aux personnes qui le souhaitent de leur envoyer une Bible gratuitement. Jusque-là, on a eu, dans les 2 ans et demi de cette entreprise, de fonctionnement, merci, on a eu une seule personne qui nous a demandé une Bible. Et on l'a fait et on est trop contente. Et c'est vraiment ça, en fait, notre but. Donc, qu'on puisse avoir toujours l'imagination pour créer de nouveaux produits qui puissent toucher, correspondre à notre marché, qu'on puisse être toujours fixé sur l'essentiel. La gloire de Dieu, au final, pas la nôtre. Et puis, qu'on puisse trouver, toucher de plus en plus de monde, que ce soit en France ou dans le reste du monde.
Et puis, il ne faut pas vous décourager. Une Bible en 2 ans, peut-être que beaucoup d'autres personnes ont déjà leur Bible.
C'est ça.
Et que ça leur fait du bien quand même.
Ben, on espère, en tout cas. C'est ce pour quoi on prie. Que chacun de nos produits puisse toucher la personne en plein cœur.
Alors, on priera aussi pour vous.
Ah ben, c'est super.
Merci beaucoup et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au top, ce témoignage. Hein. C'est chouette de pouvoir découvrir l'histoire de T-Notes. Et notamment cette préoccupation environnementale hein, qui est au cœur de notre réflexion de ce mois. J'aimerais te partager un chant de Mick qui s'appelle Colibri. Il s'agit d'une histoire qui donne le ton au thème que nous abordons aujourd'hui.
Très peu savent qu'elle existe, cette belle étendue de terre. On l'appelle l'île qui regorge de trésors et de mystères. Les animaux sont nombreux, les espèces sont variées, là-bas la faune et la flore sont parfaitement mariées. Mais un incendie terrible frappe le beau décor, une épaisse fumée noire propage une odeur de peur et de mort. Au bord de la panique que cause ce drame, tous courent dans tous les sens devant le piège que posent les flammes. Ceux qui survivent prennent la fuite et se mettent vite à l'abri, mais le troupeau est surpris par les allers-retours du colibri. Cet oiseau mouche puise ses gouttelettes dans l'eau, les dépose sur le feu, en va-et-vient il vole au-dessus du flot. L'éléphant l'interpelle et d'un ton moqueur lui dit « ça sert à rien, ces gouttes n'ont rien d'un extincteur ». Le colibri, plein de conviction dans le regard, lui répond « je sais bien, mais je fais ma part ». Quand je me dis c'est pas la peine, quand je perds la motivation, fais-moi chanter à tue-tête, oh, qu'il n'y a pas de petites actions. Mon siècle est marqué par le chômage, la guerre et les suicides. La famine fait son trou entre OGM et pesticides. On vote pour le loup qui a les crocs les moins aiguisés. La faune et la flore souffrent comme un foyer brisé. Je vois des missionnaires, mais je n'ai pas leur projet, moi. Ceux qui font des grandes choses, mais je n'ai pas leur succès, moi. Je vois les grands mécènes, mais je n'ai pas leur budget, moi. J'ai l'impression que je suis bon qu'à prier pour tout ça de chez moi. J'admire ceux qui font avancer la médecine, ceux qui ouvrent des portes pour l'enfance orpheline. J'aimerais contribuer, moi, à qu'on lise entre mes lignes. Mais dis, est-ce que mon stylo pourra freiner la vague marine? Il faut arrêter de lécher la vitrine annexée, regarder le vert de leur pelouse d'un œil complexé. Si je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis, fais ta part, quoi, fais ta part. Quand je me dis, c'est pas la peine, perds la motivation, fais-moi chanter à tue-tête, oh, qu'il n'y a pas de petites actions.
À
Après les nuages sombres, il y a le ciel bleu. Après la pluie, il y a le soleil. Après la nuit, il y a le jour. Autant de sujets d'espérance, d'un monde meilleur. Et je crois que pour tout un chacun, et notamment pour les chrétiens, mais pas seulement, l'espérance est quelque chose qui est un moteur vraiment puissant dans nos vies. On a envie de construire, de toucher, de recevoir un monde meilleur, finalement. Et les chrétiens reçoivent cette promesse de la part du Christ quand il s'en va de cette terre. Je reviendrai. Je reviendrai et puis vous vivrez une vie belle et bonne. Non pas que cette vie ici-bas soit forcément nécessairement complètement mauvaise, mais malgré tout, elle n'est pas facile. Et nous vivons des temps difficiles. La terre souffre, hein, comme on le voyait précédemment. Et nous-mêmes, nous avons une responsabilité que nous n'avons peut-être pas beaucoup de facilité à assumer. Nous sommes face à une crise écologique et nous pouvons nous inquiéter. Il y a des conséquences, pas seulement pour l'avenir, mais pour aujourd'hui déjà, tout à fait réelles. Alors, dans cette série de cultes, nous avons fait tout un parcours. Nous avons réfléchi, savoir si la Terre devait être respectée. Et clairement, oui, les propositions, l'harmonie initiale de Dieu, de cultiver le jardin, de prendre soin d'avoir une harmonie initiale, eh bien, elle reste valable pour nous aujourd'hui. On s'est posé la question de savoir si la Terre était maudite. C'est vrai qu'avec l'éruption du péché, les choses ont été transformées. Mais Dieu n'a pas, s'il a maudit dans un premier temps la Terre, il n'a pas gardé cette malédiction, mais il a voulu faire alliance avec l'humain pour le mettre dans cette responsabilité, dans ce renouveau possible, dans cette tension entre le bien et le mal, nous inviter à tendre vers le bien et donc assumer notre part. On s'est posé la question de savoir si on devait partager cette terre, et la réponse est clairement oui, dans cette biodiversité où on valorise le vivant. Alors dans ce dernier volet, on voudrait s'interroger, savoir si la terre va être nouvelle, ou elle est nouvelle, et quand est-ce qu'elle sera nouvelle, et qu'est-ce que ça implique par rapport à notre responsabilité écologique. C'est vrai que j'ai l'occasion d'évoquer ce livre de Lynn White, ou cet article de Lynn White qui a dit, ben voilà, en fait, les humains, les chrétiens, parce qu'ils ont eu une lecture de la Bible où justement ils se croyaient supérieurs au reste de la création, finalement, ça a légitimé cette domination instrumentale de tout ce qui était de l'ordre de la nature. Alors ça, c'est un enjeu, hein. Finalement, une juste conception de l'homme peut amener à des dérives et finalement une déresponsabilisation des chrétiens vis-à-vis de l'écologie. Mais on a bien vu qu'il ne s'agit pas d'être centré sur l'humain, mais centré sur Dieu, et de simplement assumer notre responsabilité parce que Dieu nous le demande, parce qu'il est le Créateur. Mais il y a un deuxième enjeu, me semble-t-il, majeur, qui peut être un frein pour les chrétiens dans l'engagement écologique, c'est cette question de l'espérance, de l'avenir. Puisque Jésus promet qu'il va revenir, il dit bientôt, alors le bientôt, il est relatif, hein, dans le texte qu'on va lire dans un instant, juste avant, il est question que 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans, donc le temps de Dieu est relatif. Mais malgré tout, Jésus revient bientôt. Donc, si vraiment Jésus revient bientôt, ben à quoi ça sert de vraiment se préoccuper des problèmes qu'il y a actuellement? À la rigueur, même si tout part à volo, ça hâtera le retour de Jésus, pourrait-on se dire. Alors, est-ce que ce raisonnement-là, il est juste, il est correct? Est-ce qu'il a eu un fondement biblique? Alors, j'aimerais aborder ça et clairement, d'entrée, pas laisser la moindre ambiguïté, dire que pas du tout. Je ne crois pas que cette espérance tout à fait réelle ne nous dédouane de notre responsabilité écologique. Mais alors, prenons un texte, si vous voulez bien, le texte qui est peut-être le plus utilisé dans cette dynamique-là, mais il y en a d'autres, hein. C'est un texte de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, et je vais lire les versets 10 à 12. Dans 2 Pierre 3, Pierre dit ceci, « Le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. » Alors voilà, on a dans le verset 10 et le verset 12 cette allusion à une purification de la terre par le feu. Et on l'entend bien souvent comme une destruction totale. D'ailleurs, dans les versets qui suivent, hein, voilà, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et je peux tout de suite introduire un autre verset que je voulais évoquer dans Apocalypse 21, qui dit ceci, donc c'est la toute fin de la Bible, hein, « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, il n'y a plus de mer, et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, etc. etc. » Voilà. Alors, si on lit ces textes au premier degré, on se dit, mais voilà, finalement, quand Jésus va revenir, la terre, elle est consumée, elle disparaît, et puis il y a quelque chose de nouveau, complètement nouveau, qui apparaît. Sauf que, il s'agit d'être prudent, d'abord de prendre l'ensemble des choses. Première question qu'on peut se poser, c'est, et même si c'était vrai, et je vais essayer de montrer que ça n'est pas tout à fait en phase avec l'imaginaire qu'on peut avoir, mais même si effectivement tout disparaissait, est-ce que pour autant, ça nous dédouanerait de notre responsabilité? Et là, une fois encore, ma réponse est non. C'est Luther qui disait, si demain la terre devait être détruite et Jésus devait revenir, je prendrais aujourd'hui un pommier. Et finalement, il avait tout compris dans le sens de dire, voilà, mais je dois assumer, non pas simplement me focalisant sur un avenir que je ne maîtrise pas, parce que Dieu maîtrise toutes choses, moi je dois juste aujourd'hui faire ma part, assumer ma responsabilité et avoir cette attitude harmonieuse envers cet environnement qui est création de Dieu parce que Dieu me l'a demandé. Donc ça c'est une réalité. Mais ceci étant, on peut même faire un pas de plus pour démonter ce désengagement potentiel des chrétiens vis-à-vis de l'écologie. Les textes qui parlent du feu, c'est vrai que peut-être cela est aidé, enfin ou dans le sens contraire d'aider, hein, c'est détourné, on pourrait dire, par tout un tas de films ou de séries apocalyptico, je ne sais quoi, où les effets spéciaux nous en mettent plein la vue. Et c'est vrai que, bon, on parle de consumer, d'être dissous, c'est vrai, mais le feu, c'est quoi? Dans la Bible, c'est très intéressant, parce que le feu, il fait quoi? Il purifie. Il purifie, c'est sa première fonction. Alors après, il est aussi question du feu de la passion qui est évoqué, hein, entre l'homme et la femme, etc., ou avec Dieu. Et puis il y a aussi cette notion au-delà de la purification, ce fait d'apporter de la chaleur par le feu. Hein, donc ça peut être quelque chose de positif. Mais quand on parle de purification, assez clairement, ce n'est pas une destruction complète. Quand David dit « Seigneur, purifie mon cœur », que ton feu le brûle, etc., mon cœur, il ne disparaît pas, simplement il est transformé. D'ailleurs, quand c'est associé avec cette notion de « il y a une nouvelle terre, des nouveaux cieux », est-ce que ça veut dire pour autant que, il y a même cette expression, tout ce qui est ancien a disparu, c'est vrai. Mais ce n'est pas forcément la matière qui a disparu, mais c'est la manière de vivre, de réagir de cette création. Il y a cet autre texte dans une épître aux Corinthiens qui dit « ben voilà, à partir du moment où j'accepte Christ, je suis une nouvelle créature ». Est-ce qu'il y a une partie de moi, l'homme ancien, si on peut dire, hein, l'homme charnel, qui a disparu? Mais on réalise très bien, quand on lit ces textes-là, que je reste moi-même, en chair et en os, le même qui existait avant. Simplement, il y a eu un changement, c'est vrai. Mais pour autant, la matière première qui est mon être, elle n'a pas changé. Et je crois qu'il en est de même de la Terre. Je n'ai pas le temps de développer plus, mais je crois vraiment que quand on évoque ces textes qui nous parlent d'un renouveau, ce n'est pas forcément que Dieu va prendre la terre, faire tout disparaître et repartir de zéro. Il n'y a aucun texte qui suggère dans la Bible qu'il y aura une nouvelle création comme Dieu a créé au premier jour. Il y aura un renouveau, c'est une purification, bien sûr. Et bien sûr, Dieu nous dépasse et on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Mais finalement, c'est une perspective qui ne nous dédouane pas du tout de notre responsabilité. Et cela pose finalement la question de notre rapport au temps, je crois. Ce très beau texte de Paul, cette formule qui dit « racheter le temps ». Et souvent on l'interprète comme, il faut bien utiliser son temps, ne pas le perdre ce temps-là. Sauf que dans l'original dans lequel ces textes sont écrits, en l'occurrence le grec, il y a plusieurs mots qu'on traduit par le mot français « temps ». Il y a le temps « chronos », c'est celui qui vient le plus vite à notre esprit, hein, le temps qui passe. Et donc effectivement, c'est plutôt bien de bien gérer son temps, hein, on est bien d'accord, autant que faire se peut. Par exemple, en buvant un thé et en priant en même temps, j'ai beaucoup aimé le témoignage, ou comme tu l'as dit, Marilyn, dans ta manière de vivre au quotidien Dieu, voilà, de s'arrêter sur les mots, et c'est bien utiliser son temps qui passe. Mais il y a deux autres mots pour parler du temps, c'est le temps kairos, et ce temps kairos, c'est le temps opportun. Et dans ce racheter le temps, c'est exactement ce mot-là qui est utilisé. Puis il y a un troisième mot qui nous intéresse en l'occurrence, c'est le temps eschaton, c'est le temps final finalement. Or, quand le texte dit racheter le temps, c'est vraiment prendre conscience que je ne dois pas me focaliser simplement. Alors, je ne peux pas complètement l'éluder, au contraire, parce que je suis invité à bien gérer mon temps, mais je ne suis pas simplement focalisé sur le temps qui passe, les minutes, les heures, les jours, etc. Je ne suis pas non plus que focalisé sur « Ah, mais mon espérance, est, je ne vis pas du tout aujourd'hui, je suis focalisé sur un avenir que je connais ou que je ne connais pas, ou que je devine. » Mais c'est se dire, aujourd'hui, il m'est donné une occasion cette heure-là, cette minute-là, aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je peux en faire ? Et racheter ce temps, ben c'est finalement assumer notre responsabilité. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très fort. Alors, j'ai peut-être le temps d'évoquer quelque chose d'un petit peu qui peut nous faire sourire. C'est une théorie qu'on appelle la théorie du hamburger. C'est Tal Ben-Shahar, qui est un psychologue aujourd'hui, donc qui enseigne à Harvard et qui a écrit un livre, L'apprentissage du bonheur, qui est très intéressant. C'est un Israélien de nationalité qui est un ancien champion de squash. Et il raconte dans son livre comment, à un moment donné, quand il était à la phase squash de sa vie, mais c'était un champion top mondial, hein, vraiment, il avait une compétition très très importante pour lui et qu'il s'était préparé avec une hygiène de vie vraiment très très stricte pendant de nombreuses semaines. Il fait la compétition, je crois qu'il finit en demi-finale ou finale, enfin il réussit très bien, il est tout à fait ravi. Et puis, comme récompense, il va dans un fast-food et il commande 4 hamburgers énormes, quoi, les big, je sais pas quoi. Voilà. Et alors il est tout seul, parce que bon, les champions sportifs comme ça, il est tout seul devant son plateau avec 4 big hamburgers. Et puis là, il réfléchit à qu'est-ce que ça va faire pour lui de les manger. Et à ce moment-là, il dit que, alors il ne les a pas mangés en l'occurrence, et il a inventé à ce moment-là la théorie d'hamburger, où chacun de ces 4 hamburgers sont devenus un type de concevoir la vie, et le temps, et le rapport aux autres, et à autrui. Alors, il n'a pas, lui, un rapport à l'écologie, mais moi, je vais faire le lien, vous allez voir. Finalement, le premier hamburger, le type hamburger, type de conception de la vie ou du bonheur, finalement, c'est l'hédonisme. Donc, c'est le hamburger qui est franchement excellent, plein de crème, de gras, de choses. Donc, et c'est pour ça qu'il ne les a pas mangés, en fait. Il s'est dit, mais si je mange un hamburger, en fait, je suis en pleine forme. Alors, c'est vrai que ça me fait envie, mais après, je vais avoir le ventre lourd, je ne vais pas bien dormir, etc., etc. Donc, il y a un bénéfice immédiat au moment où on mange, mais un préjudice futur. Et écologiquement, je crois que c'est un mauvais calcul. C'est justement, oh, on s'en fiche, je coupe les arbres, je les vends, j'ai de l'argent. Puis demain, qu'est-ce qui se passera ? Bon, on verra bien. Ce schéma-là, il ne fonctionne pas. Le deuxième hamburger type, c'est l'arrivisme. C'est-à-dire qu'il n'y a que le point d'arrivée. C'est l'hamburger, aucune sauce, aucun goût. Enfin bon, on peut avoir des hamburgers qui sont sains, qui sont quand même bons, hein, mais enfin, on y arrive. Mais voilà, finalement, il y a un préjudice immédiat. Oh, il n'est pas bon à manger, mais après, je serai en forme, quoi. J'ai bien digéré, il n'y a pas de problème, quoi. Et ça, par rapport à l'écologie, ben, je ne suis pas sûr que ce soit non plus le projet de Dieu. Parce qu'on pourrait dire, ah là, je ne fais plus rien, je ne consomme plus rien, je ne touche plus à rien de la nature, j'y vais même pas parce que je vais l'abîmer. Alors que non, au contraire, on est invité à avoir cette cohabitation harmonieuse, heureuse, où on a malgré tout un bénéfice présent. Donc cet arrivisme ne semble pas non plus le schéma gagnant. Le troisième hamburger type, c'est le nihilisme, ce qu'on pourrait appeler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaisir présent, il n'y a pas de perspective d'avenir, donc il est mauvais pour la santé et mauvais au goût, quoi. Donc là, évidemment, c'est le schéma qui n'est pas satisfaisant. Mais Tal Ben-Shahar dit, mais en fait, il y a un quatrième hamburger type, qui est l'archétype bonheur, justement, où on arrive à conjuguer la joie présente et un avenir épanouissant. Et je crois qu'en termes de relation à Dieu en général, mais en relation aussi avec sa création et notre rapport donc avec notre environnement, c'est vers cette dynamique-là qu'on est invité à aller. C'est pour ça que d'ailleurs, entre les deux versets 10 et 12 que nous avons lus, là, il y a le verset 11. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ?» C'est-à-dire que, bien sûr, on peut se projeter, se réjouir d'un avenir, construire un avenir qui est réjouissant. Il faut s'en inquiéter et agir dans ce sens-là, mais tout en essayant de vivre le présent de manière aussi harmonieuse et belle que possible. Alors, les choses nous dépassent. On ne sait pas comment, quand, ni comment les choses se passeront lorsque Jésus reviendra. Et si, d'un coup de souffle de sa vie, il restaurera cette nature abîmée aujourd'hui. Peut-être, peut-être pas. Mais qu'importe, ce n'est pas notre problème. Ayons confiance qu'il est en charge de toutes choses et qu'il trouvera les solutions. Mais cela ne m'empêche pas, moi aujourd'hui, et toi, ami auditeur, et vous, ami qui êtes autour de ces micros, de nous dire ben, notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'être engagé pour le respect de cette création. Parce que aujourd'hui, prépare demain, et parce que finalement, ce que je suis aujourd'hui dans mes valeurs, eh bien, contribue à l'assurance que j'ai d'une espérance future. Alors voilà, à n'en pas douter, il y aura une terre nouvelle, peut-être pas comme on l'imagine, et le nouveau sera peut-être fait avec du vieux transformé, donc attention au vieux, hein, à ce vieux qu'on essaye de protéger au maximum, mais finalement, cette terre nouvelle, elle est bien sûr pour demain, Mais la Terre nouvelle, elle commence aujourd'hui.
J'aimerais partager avec toi un poème tiré de la chaîne YouTube Un truc à dire. Le titre de ce poème est « La création me parle de toi ». Dieu de l'univers, ta création me parle de toi. Quand je dirige mon regard vers le ciel, je suis saisie par l'incroyable diversité de couleurs. Je suis émerveillée de contempler ces nuits si belles, parsemées d'étoiles. Et ce ciel bleu, lors des beaux jours, quel contraste! J'ai l'impression que mes yeux ne sont pas complètement capables de saisir la beauté de ton ouvrage. Ta création me parle de toi. Quand je marche dans les forêts, entre ces arbres si majestueux, ces fruits délicieux qu'ils produisent, chaque saison, ces fleurs qui sont si belles et qui sentent si bon. Quand je vois les collines et les montagnes, ces rocs solides, forts, impassibles, je suis pris de vertige. Quand je suis en haut de ces crêtes et que je regarde le monde, j'ai l'impression de ne saisir qu'une infime partie de ton immensité. Ta création me parle de toi. Quand j'observe les océans qui bordent la terre, ces vastes étendues d'eau qui ont l'air de ne jamais prendre fin dans l'horizon. Quand je vois la profondeur des mers, ces vagues puissantes qui viennent déferler et se briser sur les falaises et les plages. Quand je vois tout cela, j'ai l'impression que quand même de ne pas voir toute la puissance de ton œuvre. Ta création me parle de toi. Quand je perçois les animaux que tu as créés, leur force, leur intelligence et leur élégance, quand je vois la diversité des espèces qui peuplent notre planète, sur la terre, dans les mers et dans le ciel, quand je vois cet équilibre si précieux entre la faune et la flore, je suis frappée par l'harmonie parfaite de ta création. Seigneur, ta création me parle de toi. Quand je regarde l'être humain que tu as créé à ton image, avec son intelligence, son ingéniosité, sa beauté, sa capacité de ressentir des émotions, des sentiments et à les communiquer. Quand je vois les civilisations créées par l'homme, sa capacité à apprendre pour ensuite transmettre. Quand je vois la multitude d'ethnies, de cultures, de couleur. Quand j'observe cet être humain, j'ai l'impression que ce que je vois n'est qu'une prémisse de ta gloire et de ta perfection. Ta création me parle de toi. Dieu de l'univers, je suis si reconnaissant pour ta création. Elle me permet de voir ta perfection. Quel Dieu incroyable tu es. À toi seul soit la gloire. Amen. J'ai beaucoup aimé ce poème et maintenant j'aimerais simplement vous inviter à méditer et à louer ce Dieu incroyable qui a tout créé à travers ce chant.
Du plus haut des sommets, au fond des océans,
au parfum du printemps,
au parfum du printemps.
Dieu incomparable. J'aime ce chant qui parle de la grandeur de Dieu. Dans un recueil de textes liturgiques, on trouve ce poème. Dieu seul peut créer, mais il t'appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il t'appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il t'appartient d'être un signe de Dieu. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il t'appartient de redonner confiance. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il t'appartient d'apprendre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais il t'appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il t'appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il t'appartient de sourire. Dieu seul est la lumière, mais il t'appartient de la faire briller. Dieu seul peut faire un miracle, mais il t'appartient d'apporter tes 5 pains, tes 2 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous. J'aime dans ce texte de quelle manière Dieu nous inclut dans sa création, dans la préservation de son œuvre. Avec Dieu, rien n'est laissé au hasard, tout a un propos. Dieu seul peut, Dieu seul crée, mais il te rend participant, co-créateur, co-responsable et collaborateur. Un Dieu qui choisit de ne pas faire sans nous.
Défile tout doucement, une brise me caresse tendrement. Mes yeux expriment une joie immense de savoir que ce n'est pas par chance que la nature soit d'une telle beauté. C'est pourquoi je me mets à
raconter une histoire qui démontre que les actions d'une seule personne peuvent en effet changer les choses. C'est l'histoire de Afrocha, peut-être que vous avez déjà entendu parler, qui est à l'origine du nettoyage d'une des plages les plus polluées au monde. Alors, Afrocha était un simple citoyen qui est revenu en 2015 habiter à Mumbai, sa ville de naissance. Il habitait tout près de la plage de Versova et il voyait tous les jours, à partir de sa fenêtre, cette plage. Donc, il constate que la pollution de Versova est allée trop loin, car ce n'est plus une plage, mais c'était un véritable dépôt de plastique. Mais à tel point que certains tas atteignaient carrément 1,60 m de hauteur. Vous pouvez imaginer. Au début, il ne savait pas quoi faire, donc il pensait que la mairie ferait quelque chose. Mais à un moment donné, il s'est vite rendu compte que cela durait déjà depuis très longtemps et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, il décide tout simplement de mettre ses gants, de se rendre à la plage et commencer à ramasser le plastique. Alors, les gens l'observent, certains des voisins constatent ses efforts et donc décident de se joindre à lui. Et puis ensemble, ils décident de lancer une campagne de nettoyage hebdomadaire en invitant plus de bénévoles. Donc, ils deviennent 10, 20, jusqu'à arriver à des centaines de volontaires réguliers. La mairie est aussi touchée par cette initiative, donc elle va mettre à disposition des bennes, des tracteurs, ce qui va être d'une aide précieuse. Vous pouvez imaginer, c'est plus facile avec les machines quand même.
C'est sûr.
Et voilà qu'un véritable mouvement citoyen prend lieu et 5000 tonnes d'ordures sont enlevées de la plage de Versova. Vous imaginez ça? 5000 tonnes? Moi, j'arrive pas à imaginer en fait, tout simplement. C'est vrai que le résultat a été époustouflant. Depuis, cette plage est propre. Les personnes peuvent profiter en fait, s'amuser, jouer, nager. Mais quelque chose d'encore plus incroyable est arrivé. Et c'est la partie que j'adore. C'est qu'en 2018, pour la première fois depuis 20 ans, des tortues olivâtres reviennent enfants à la plage pour pondre des œufs. Et des bébés tortues sont nés. Alors, quelle métamorphose, franchement. Et puis ce projet est assez élargi pour commencer à nettoyer d'autres plages, non seulement en Inde, mais aussi dans d'autres pays. Mais le but, ce n'est pas seulement de nettoyer le travail, la pollution, mais c'est aussi de changer les mentalités. Et cette histoire, en fait, m'apprend beaucoup de choses. Tout d'abord, la nature nous enseigne ici que, en fait, nos agissements font la différence. Il est assez clair que nos actions ont un impact, en fait, sur la nature, tant pour le mal comme pour le bien. Dans ce cas, pour le mal, car si les plages sont aussi sales, bon, c'est à cause de nous. Et pour le bien, parce que ces bénévoles avaient la bonne volonté, et donc, grâce à eux, la nature s'est renouvelée, jusqu'au point de permettre la renaissance, pour permettre la récréation. Donc, comme disait Gabriel, c'est vrai que cette récréation, elle est possible dès aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'attendre le retour du Christ pour commencer à changer les choses déjà aujourd'hui. Et puis, autre chose qui me touche aussi dans cette histoire, c'est que Afrocha ne pensait pas que son initiative allait prendre autant d'ampleur, en fait. Il a juste commencé par faire sa part, mettre les gants et aller sur la plage pour ramasser du plastique. Il aurait pu se décourager, en fait, et dire que la tâche semble trop impossible pour une seule personne. Mais pourtant, il est allé quand même. Et son initiative a donné le courage à d'autres qui ont fait de même. Comme quoi, l'initiative d'une personne, finalement, peut vraiment inspirer et devenir celle d'autres personnes. Et donc, oui, une goutte dans l'océan peut faire toute la différence.
Moi, j'aime beaucoup cette notion de faire sa part. Ici, ce qui revient, c'est peut-être même autre chose, c'est faire la part des autres. Mais peut-être qu'il s'agit aussi de temps en temps de montrer l'exemple, de faire le premier pas et d'autres suivent, et on le voit dans cette histoire, d'autres personnes sont impactées, sont encouragées à partir de ce premier pas à avoir aussi un impact et cette envie de faire leur part quelque part. Une belle leçon de vie. Et puis on parlait, 5000 tonnes au poids du plastique, ça en fait.
Oui, Moi, ce qui m'interpelle, c'est par rapport à l'immensité de ce travail, c'est vraiment cette décision de commencer, même comme la chanson du colibri, un petit truc, un monsieur avec 5000 tonnes. Mmh. Et voilà, ça m'interpelle aussi dans nos vies, dans ma vie. Il y a des fois des choses qui semblent immenses et qu'on ne va pas commencer, mais il suffit de commencer.
Mmh, tout à fait. Perso, quand je vois ce grand nettoyage, je vois là aussi la main de Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui suscite la vie là où il y a le chaos. Et donc oui, Dieu renouvelle toutes choses et nous pouvons être des instruments et contribuer à ce renouvellement dès aujourd'hui. Même si cela commence par des gestes simples qui peuvent même sembler insignifiants.
Hmm. Est-ce que je peux vous inviter à prier avec moi ? Seigneur, après 4 semaines à parcourir ta parole pour découvrir ton cœur autour du thème environnemental, je suis saisie par la précision de tes actes de création, par toute cette organisation minutieuse que tu vas apporter à tisser chaque être vivant, à leur donner une place, une importance, que ce soit même le minéral, le végétal. Et je veux faire partie, Seigneur, de celles et ceux qui s'engagent à préserver cette terre que tu nous prêtes. Comme le disait Gabriel tout à l'heure, la terre nouvelle commence aujourd'hui. Apprends-moi, apprends-nous à saisir le temps opportun, le bon moment pour protéger cette nature, apporter en tant que chrétien un impact qui soit positif, redonner valeur à chaque sujet que tu as imaginé, rêvé, que tu as pensé, que tu as créé. Merci de renouveler notre intelligence pour qu'on puisse saisir ta volonté. Et puis partage-nous aussi davantage ton cœur pour qu'on puisse penser et agir davantage comme toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Alors après toutes ces réflexions, ces témoignages inspirants, tu as peut-être plein d'idées pour passer à l'action. Et à l'exemple de cette plage, une seule personne peut faire quelque chose quand elle s'engage. Alors, je vous propose quelques pistes pour enrichir votre réflexion sur quelques moyens de se positionner, de faire des démarches pour améliorer le soin que nous apportons à notre planète. Alors, je vous propose en fait 2 défis. Le premier défi, il a un niveau facile, un niveau difficile. Le niveau facile, c'est commencer ou améliorer son tri des déchets. Ça veut dire verre, papier, plastique, alu, etc. Ça demande un petit peu d'organisation, peut-être dans la cuisine, ça prend plus de place qu'une seule poubelle, mais ça vaut la peine. Et pour le niveau avancé, en fait, si vous avez déjà plein de tri, eh bien, on peut commencer à limiter les déchets. Ça veut dire, en prenant ses sacs de la maison pour aller en course, en limitant le plastique, en utilisant peut-être d'autres matériaux recyclables au lieu du plastique. Donc voilà, ça c'est un défi que je vais tenter pour limiter les déchets. Le deuxième défi que je propose, c'est d'augmenter sa part de consommation locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste trouver un producteur local et se régaler. C'est pas compliqué, hein. Et ce défi, c'est un choix de consommation pour notre planète à notre petite échelle. Mais aussi, il a plein d'autres avantages. En consommant local, on peut créer du lien avec nos voisins qui vont au même magasin, qui habitent en dessous de chez nous, les producteurs de notre région qui sont du coup presque nos voisins. On soutient ces producteurs, on prend soin de notre santé et c'est bon. Alors, même si c'est que pour quelques achats, pourquoi pas tenter le coup ? Il y en a pour tous les goûts. Donc, améliorer son tri des déchets, limiter ses déchets, ou consommer local, les petits ruisseaux font de grandes rivières.
Merci Marilyn, tu nous invites à passer de la parole à l'action. J'espère que quelques idées vous ont aidé. Je sais que c'est un véritable défi que nous avons devant nous, mais cela vaut le coup de prendre le temps de réfléchir à ce que nous pouvons faire chacun individuellement pour cette planète que Dieu nous a confiée. Alors nous arrivons à la fin de ce culte et aussi de cette série sur l'écologie. Un grand merci à Gabriel d'avoir été disponible pour nous parler de ce sujet d'actualité. Et merci aussi à l'équipe d'être là. Ces moments d'échange ont été vraiment précieux. J'ai passé un beau moment avec vous Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices. Comme dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais aujourd'hui, c'est juste un au revoir jusqu'à samedi prochain. Alors je vous souhaite une bonne continuation de journée et je vous dis à très bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.